Bonjour tout le monde, ça va? Il est ressuscité? Il est vivant? Oh. Il est vivant! Hey. Ok. Oui, voilà, donc ce message, ça va être un peu participatif au niveau justement les choses avec un oui ou amen ou alléluia ou comme ça vous venir à l'esprit ou le cœur. Ne restez pas trop tranquille quand même, d'accord? On est là ensemble, je compte sur vous, voilà. Oui, ce matin, j'ai le plaisir, j'ai la joie, j'ai l'honneur et même le privilège de vous parler de quelqu'un extraordinaire, quelqu'un qui m'a changé, qui m'a transformé. La personne la plus importante de ma vie, bien sûr, c'est Jésus. Il est mon meilleur ami. Il est mon bien-aimé. Il est mon frère. Il est tout pour moi. Et ça a à peine commencé à décrire notre Jésus. Et je sais que je ne suis pas la seule qui pourrait être là. Vous êtes beaucoup qui pourraient prendre cette place pour parler de qui est Jésus. L'immensité, sa bonté, son amour. Mais je me réjouis vraiment de pouvoir partager. Jésus, il est tout ça pour moi et il est beaucoup plus. J'ai des listes qui viennent de la Bible de qui il est. Je vais juste partager quelques-uns, d'accord? Et là, déjà, s'il y a des choses qui vous parlent, il est Emmanuel, conseiller, Dieu puissant, le prince de la paix. Il est la gloire de l'Éternel. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rédempteur. Il est le soleil de justice. Il est le soleil levant, le sauveur. La parole, le créateur, la véritable lumière, la vérité, l'agneau de Dieu, le Messie. Il est la lumière du monde. Il est le grand je suis. Il est la résurrection et la vie. Il est le Fils de Dieu. Il est le prince de la vie. Il est le Seigneur de gloire. Il est la pierre angulaire. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le lion de Juda. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître, le rabbin. Il est l'espérance d'Israël. Il est la bonne nouvelle. Il est le ressuscité. Il est le Fils bien-aimé, le Fils du Très-Haut, le Fils du Béni, le Fils de Dieu. Il est Seigneur et il est vivant. Amen. Et ça, c'est pas tout, hein? On sait. J'ai sauté plein de choses. Donc, merci Jésus. Aujourd'hui, on se souvient de toi. Et on veut que vraiment que tu sois le centre. Et on se réjouit dans ta vie. Ta mort et ta résurrection, qui est notre foi. Amen. Alors, parlons de Jésus. On n'a pas le temps juste aujourd'hui. Hein? Donc, je vais essayer de rester sur un fil conducteur, de parler de certaines choses, de sa vie, sa mort, sa résurrection, ce que ça signifie pour nous, pourquoi c'est important. Oui. Alors déjà, la Bible, dès le début jusqu'à la fin, c'est toute une histoire. Ce n'est pas que 66 livres qu'on a un peu mis ensemble comme ça. Mais Jésus, on le trouve dedans, dès le début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, parlons un peu aussi de vocabulaire. En français, on dit aujourd'hui c'est la Pâque. En anglais, on dit Easter. D'accord? Mais ces mots-là, je sais au moins, peut-être je suis pas aussi bien, je comprends pas aussi bien l'origine du mot Pâque, mais Easter, c'est carrément un mot païen pour une déesse de la fertilité. Donc la Pâque, je ne sais pas si c'est la même origine ou pas. Donc depuis quelques années, les chrétiens anglophones, on a commencé à appeler aujourd'hui Resurrection Sunday, le dimanche de la résurrection. On a compris qu'on a chopé un nom qui n'a rien à voir avec Jésus, sa résurrection. Donc on commence petit à petit à remplacer ce mot Easter avec dimanche de la résurrection. Pâques, ça veut dire, tu sais? Pessa. Oui, je viens à ce mot-là. Mais le mot Pâques, je parlais spécifiquement pour commencer. OK? Donc, aujourd'hui, on va fêter le dimanche de la résurrection, ou la résurrection de Jésus. OK? Et aussi, justement, je venais à cette fête de Pessa. En anglais, on dit Passover. Et c'est exactement ce que Esther vient de dire. Ça veut dire passer au-dessus. Et il n'y a pas, c'est pas un hasard que Jésus, il a pris son dernier repas, cette fête de Pessa. Il est crucifié le jour avant le saint jour de Pessa. Cette fête, c'est pas un hasard, n'est-ce pas? On voit vraiment combien Dieu, il est précis. OK, c'est quoi Pessa? Alors, commençons. On revient en Exode. Et on a les Israélites qui sont esclaves en Égypte. Et ils veulent sortir et Dieu veut qu'ils sortent. Et Pharaon, il n'en veut pas. Et donc, il y a les 10 plaies. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés, soit les fils, les humains, même les animaux. La protection, c'était le sang de l'agneau, d'un anneau sur le linteau, les montants de la porte. Le sang de l'agneau sur du bois pour protéger tout qui était dedans, tout qui appartenait à cette maison, à ce foyer, était protégé. On voit bien que pour les Égyptiens, c'est très mal passé. Beaucoup de morts. Pour les Israélites qui ont suivi les conseils de Dieu, ils étaient sauvés. Le sang de l'agneau a sauvé les premiers-nés. D'accord. Ensuite, ils sont libérés de l'Égypte. Et Dieu leur demande, parmi d'autres fêtes, chaque année, de fêter Pessa, de se souvenir. Pourquoi? Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu rentres dans une pièce à la maison pour chercher... C'était quoi que je cherchais déjà? Juste le temps de passer d'une pièce à l'autre dans la maison. J'ai oublié, je cherchais quoi? Ça vous est déjà arrivé? OK. Alors, pourquoi Dieu nous demande ou il a mis en place les fêtes juives? On oublie. On oublie trop facilement. Même juste quelques secondes, je peux oublier. Je cherchais quoi? OK. Et encore plus les choses très importantes. Donc, il a établi les fêtes chaque année, plusieurs, pour se souvenir de qui Dieu est, qui il est Dieu, ce qu'il a fait. Voilà. La fête de Pessa, pareil. Donc, quand Jésus est là, il mange ce repas avec ses disciples. Ça fait des centaines d'années déjà qu'on a fêté Pessa. On mangeait ensemble, on se souvenait de cette délivrance de l'Égypte et d'être sauvé de l'esprit de mort. Ça prend son sens, n'est-ce pas? Ok, donc ce n'est pas du tout par hasard. Alors, vous êtes plusieurs de connaître beaucoup mieux le calendrier hébreu que moi, mais le 14 jour du mois de Nissan, ça c'est le Pessah, et puis le 15, ça c'est le... Je ne sais pas, j'ai besoin d'étudier un peu plus, mais c'est ça... Le Pessah et le timing, où Jésus, le 14, il a mangé avec ses disciples, il était arrêté, et l'histoire continue. D'accord. Donc, on voit bien que depuis longtemps, c'était pour délivrer Israël. Mais c'était aussi un signe prophétique du plan de Dieu. Pour Jésus, pas que pour Israël, pas pour sauver que les premiers-nés, mais pour sauver le monde et tout le monde depuis le début. C'était juste, pas juste, en partie c'était un signe prophétique de ce qui venait. D'accord? Ok. Ça c'est notre fil de voir le timing, combien c'est parfait. Et en Ésaïe, on lit de Jésus, « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de pincer ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. » Voilà, on a besoin de Jésus. Est-ce que vous êtes au courant, si vous travaillez ou vous êtes entouré par les non-chrétiens, est-ce que vous avez remarqué que on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un sauveur? L'idée de péché, l'idée d'être séparé de Dieu, l'idée d'avoir besoin d'être purifié ou de mieux vivre, l'idée qu'il y a une vie qui est mieux. Est-ce que vous avez eu des conversations avec les non-chrétiens récemment? J'ai parlé avec une dame, elle est super. Mais on parlait justement de celle de mon papa, de celle de le papa de son conjoint. L'idée de l'éternité, de conséquences, de même de deuil, de... J'ai vu que combien on était sur deux planètes, mais vraiment. Donc, on commence déjà, si on veut parler de besoin, c'est pour ça qu'on a besoin d'être la lumière, le sel, et de montrer l'amour de Dieu. Parce qu'il faut qu'ils voient une différence chez nous, qu'ils ressentent quelque chose. Ils ne sont même pas au courant qu'il manque quelque chose. Ok? Mais bien sûr, c'est en Romains 3, 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Pour nous, ça c'est, oui, tu me dis rien de nouveau là. Mais pour les non-chrétiens, c'est juste, péché, c'est quoi? Tout est presque acceptable si ce n'est pas horrible, n'est-ce pas? D'accord. Et dans l'Ancien Testament, on a vu, avec les prêtres et tout ça, il fallait... se purifier avant d'aller dans la présence de Dieu. Parce que si on n'était pas purifié, pas bonne nouvelle. OK? Parce que Dieu, il est saint. Et la sainteté, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Si on rentre dans cette sainteté, en n'étant pas pur ou saint aussi, on ne peut pas se porter. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de l'Ancien Testament. Donc c'est là on a les sacrifices de l'agneau, des chèvres, des bœufs, on dit comme ça. Tout ça, les sacrifices des animaux, pour que le sang nous lave pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Donc ce principe aussi, on voit que Dieu il a mis en place en attendant qui? Jésus. D'accord? Donc tout ce principe, tout ça, C'est tellement riche, mais je vais vite. Parce que, ah oui, si vous parlez un peu anglais ou vous aimez lire les sous-titres en français, il y a un projet sur YouTube qui s'appelle The Bible Project. OK? Et il y a plein, tous les livres de la Bible. Il fait les courts trucs, normalement 5-6 minutes, qui expliquent. Et c'est super bien fait. C'est vraiment bien fait pour donner une compréhension pour aider justement l'étude de la Bible. Il y a un sujet, la sainteté. Je l'ai regardé, il y a plusieurs jeunes, on l'a vu ensemble aussi, sur la sainteté. 6 minutes et quelques, et à la fin, j'étais juste, oh, je ne l'ai jamais vu. Et ce que ça a pointé, c'était justement, j'ai parlé de pour être saint ou purifié, il fallait le sang des animaux pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Ensuite, on a en Ésaïe, il a sa vision où il est dans la présence de Dieu. Et il se rend compte, parce qu'il est juif, il sait bien qu'il n'a pas le droit d'être dans la présence de Dieu, il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je me criais, malheur à moi, je suis perdu. Car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Là, on a une vision de quelque chose qui touche et qui rend saint, qui vient de la présence de Dieu, qui n'est pas le sang de l'agneau. Ensuite, en Ézéchiel, j'ai bien prononcé Ézéchiel, 47, ça part des eaux qui coulent du trône vers la terre jusqu'à la mer morte, et tout est devenu vivant. Le verdure, les animaux et tout ça. Et c'était ce fleuve, c'était ces eaux qui ont lavé, qui ont emmené la vie. D'accord? Donc avant, si tu as touché ou tu étais dans la présence de quelqu'un mort, tu n'étais pas pur, tu ne pouvais pas aller au temple. Il fallait attendre un temps, il fallait faire les sacrifices pour être purifié, pour aller. Là, on commence à voir cette idée de sainteté, d'être touché par la sainteté et pour devenir saint. Et ensuite, quand on a Jésus, qu'est-ce qu'il faisait avec les malades? Les lèpres, qu'est-ce qu'il faisait? Il les touchait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient guéris. Au lieu que Jésus, il est devenu impur, il a donné sa sainteté, il a donné sa puissance pour guérir. Combien c'est beau! Alors, cette petite vidéo, c'est plus cool que ma façon de raconter. Mais ça a mis tous ensemble pour moi de voir comment Dieu, il a planifié justement. On passe de tu touches, tu es impur, de maintenant tu as la sainteté, tu vas donner, tu vas toucher ce qui est impur et ça va devenir pur par sa puissance et par son sang, le sang de l'agneau. Combien c'est beau. Wow, Jésus, il est bon. Ok, parlons un peu de la vie de Jésus. Aujourd'hui, on va se souvenir. C'est notre jour de fête de la résurrection. Donc, on va prendre le temps pour se souvenir ensemble de sa vie. Jésus, il était radical. Il était très radical. Alors, si on lit la Bible un peu avec tout ce qui est arrière-plan d'aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, radical, oui, mais on a des femmes qui ont de la valeur, on a les enfants, on les aime beaucoup, on les inclut. Les handicapés, on fait tout pour améliorer leur vie, n'est-ce pas? Dans ce jour-là, ce n'était pas ça. Les femmes, les enfants, on ne veut pas entendre d'eux. Même le témoignage d'une femme, pas fiable, pas possible. On n'écoute pas les femmes, elles mentent. Okay? Les handicapés, n'en parlons pas. D'accord? Jésus, sa vie, c'était d'aller vers les handicapés, les personnes qui souffraient, les malades, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées. Les femmes, il a donné de la valeur. Les enfants, il a dit, laissez-les venir à moi. Radical! On se pose la question, mais pourquoi les pharisiens, ils détestaient autant Jésus? Voilà. Il a fait tout contre la culture juive de ce jour-là. Aussi, il guérissait le jour du sabbat. Oh! Tu guéris, c'est un jour de repos. Mais ils ne suivaient pas leurs règles. Comprenons bien, il a accompli tout dans la loi. Mais ils ne suivaient pas les règles qui étaient un peu rajoutées, imposées. N'est-ce pas? Il est l'accomplissement de la loi. Donc, il sait. Mais pour quelqu'un qui veut du pouvoir, quelqu'un qui se vante en étant l'autorité de tout qui est bon, tout qui est juste, tout qui est la loi, je tiens tout ça. Et puis, il y a cet homme du monde qui le suit, qui l'aime, et il fait les choses contre ce qu'on enseigne. Il est en train de me piquer mon pouvoir. Il était radical. Comment il aimait les choses qu'il a dit. Il était tellement aimant, en même temps, il était capable de rentrer dans le temple et de tout bouleverser, dehors, tout qui est vendeur et tout qui salit le temple de Dieu. Donc, ça, c'est notre Jésus. Il est radical. Pensons même de sa naissance, même la façon dont il a été conçu, on dit comme ça. C'est un peu radical quand même. C'est pas la façon d'habitude. Donc, dès le début du début, c'était radical. Quelque chose, une amie il y a longtemps m'a pointé. Marie, elle est jeune, il y a un ange qui vient. Marie, tu vas avoir le sauveur du monde, tu vas avoir le Fils de Dieu. Ok, comme tu dis. Elle a dit oui. Alors, ça c'est un mandat qu'une personne dans l'histoire a dit oui, a eu. On penserait, elle est rentrée pleinement dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Dans sa culture, qu'est-ce que ça va faire? Ensuite, elle a son fils et Hérode, il veut le tuer. La famille, toute la famille, il faut se sauver en Égypte, aller loin de la famille, vivre le temps qu'il fallait sans sa famille, en danger. Au bout d'un moment, ils reviennent. À l'âge de 12 ans, il perd Jésus. Il est où Jésus? Je pense qu'il était avec toi, mais je pense qu'il était avec toi. Je pense qu'il était avec tonton un tel. Ok? Elle a vécu du stress en étant la mère de Jésus, n'est-ce pas? Mais elle était parfaitement dans la volonté de Dieu. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Des fois, on dit oui à Dieu, on rentre dans notre destinée, et d'un coup, je dois me sauver en Égypte, quoi? Tu veux tuer mon enfant, quoi? Mais Dieu, j'ai dit oui à toi. Oui, tu es parfaitement dans ma volonté. Bien sûr, elle a été gardée. Mais vous voyez un peu, waouh, d'être pleinement dans la volonté. Et n'en parlons pas de la fin de la vie de Jésus, d'être sa mère. Elle a tout vu. On ne peut pas imaginer, n'est-ce pas? Je ne suis pas une maman, mais quand même, je ne peux pas imaginer de regarder un être si cher passer par ça. Pour moi, en plus, payer le prix. Mais elle est bénie, tout ça pour nous encourager que ce n'est pas toujours simple, les amis, de suivre Dieu. Mais ça vaut la peine, ça vaut le prix. Et notre exemple ultime, c'est le prix que Jésus a payé pour nous. Donc, il est né, il a vécu beaucoup de sa vie avant même de rentrer dans son ministère, de commencer les miracles, les prodiges, tout ça. Mais après, c'était glorieux, n'est-ce pas? Mais c'était beaucoup de travail, on le suivait partout. Il voulait aller par là pour se reposer. Des centaines sont venues avec lui. Il était entouré presque jour et nuit. Bien sûr, il a pris les temps seul pour se ressourcer avec son papa. Mais c'était du boulot d'être Jésus. Et il était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais il ne faut pas oublier que des fois, je suis sûre que c'était un peu fatigant quand même. Il a guéri les malades. Il a délivré les gens des démons. Il a aimé les personnes pas aimables. Il a passé du temps avec les personnes rejetées par les religieux. Ça, c'était sa vie, son exemple. Et tout, il a fait en communauté pour lever les autres, pour enseigner, pour faire les disciples, pour se multiplier, pour préparer pour la suite de son départ. Et puis, bien sûr, on arrive à la fin de sa vie. Et ce week-end ou cette semaine, c'est ça, on se souvient. Parce que c'est là, sans le Pessa, ce moment, passé par Jésus. On ne sera pas là, les amis. N'est-ce pas? Alors, mais tout est important parce que sa vie amène à sa mort. Et sans sa vie, son péché, son exemple qu'il a donné, on n'a pas la suite qui a tout payé, qui a tout accompli. Mais on arrive là. Alors, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment que nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ouh. Alors, il prend ce dernier repas avec ses disciples. 12 hommes qui étaient proches de lui, un qui le trahit. Il le sait en plus, il aime jusqu'au bout. Ça commence, je suis sûre que ça lui a fait de la peine, n'est-ce pas, d'avoir un proche te trahir. Ensuite, ils vont dans le jardin de, comment on prononce, Gethsemane? Gethsemane, merci. Désolée pour les prononciations. Et là, le poids de ce qui va venir tombe sur lui. Souvenons-nous, il était pleinement Dieu et pleinement homme. En même temps, Il était bien au courant de ce qui allait se passer. Il a pris 3 disciples, il s'est éloigné pour prier. Les 3 sont endormis. Lui, il était tellement en souffrance qu'il a prié. Ah, je suis désolée, c'est là quelque part. Ok, je ne trouve pas. Donc, je résume. Il a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe de moi, cette coupe de souffrance, fais-le, mais sinon, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il revient, les disciples, ils dorment. Mais vous ne pouvez pas, même une heure, rester avec moi. Encore une déception. Il est retourné, il a prié la même chose. Il était en détresse déjà. Il est revenu et bien sûr, les soldats, les prêtres arrivent pour l'arrêter. Et Judas vient faire les bisous qui le trahit. Il est arrêté. Et juste comme il avait dit à ses disciples, vous allez tous être, vous allez me renier. Et Pierre, bien sûr, étant Pierre, mais non, pas moi, tous les autres, mais non, jamais moi. Oui. Et puis Jésus lui dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et bien sûr, ça arrive. On ne sait jamais. Des fois dans ma vie, je me suis posé la question, si jamais je suis face à quelqu'un qui va me tuer, si je renie Jésus, est-ce que j'aurai la force? J'espère. Mais donc si, ne jugeons pas nos frères. Et ce moment dans l'histoire, c'était dur. Alors ensuite, bien sûr, devant les prêtres, les pharisiens, les maîtres de la loi, on lui accuse plein de choses, il se tait. Mais quand on dit, est-ce que tu es le roi des Juifs ou le fils de Dieu, il dit, c'est comme vous l'avez dit. C'est tout. Ensuite, il est battu par les religieux, les prêtres, les maîtres de loi qui le tapent. Dis-nous, c'est qui t'a frappé, prophète? Ils ont craché sur lui. L'humiliation commence avec son peuple, les Juifs, qui encore le trahit. Ensuite, il est emmené à Pilate. Pourquoi? Parce qu'on est trop pieux pour tuer quelqu'un. On ne fait pas ça. On est religieux. Pilate. Il voyait bien que les religieux étaient jaloux. Donc il a donné la chance de libérer Jésus parce que grâce à cette fête de Pessah, chaque année, on va libérer un prisonnier pour les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Donne-nous Barabbas. Mais qu'est-ce que je fais avec Jésus? Crucifie-le! Mais il n'a rien fait. Crucifie-le! Il est innocent. Crucifie-le! Quelle haine! Quelle haine! Donc, il a lavé ses mains. Sa femme a fait un rêve. Ils étaient bien au courant de ne pas toucher. Il a livré Jésus pour être crucifié. Mais avant, il est passé par le fouet. Là ou le fouet. Vous connaissez le fouet? C'est pas un fouet avec un truc en cuir. 8. Avec au bout les petites pièces de métal. 39 fois. Car si on fait 40, c'est la mort pour la personne. Peut-être vous avez vu le film, c'est difficile pour moi, une fois j'ai vu La Passion. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est horrible, c'est une horreur. Il a été torturé avec ce fouet, uniquement ça, qui a... Ça commence là, ça enlève la chair, ça expose tout ce qui est là. Il a perdu beaucoup de sang. Ensuite, on lui met une couronne épineuse. Et pas les petites épines comme ça, les épines comme ça. Et apparemment, qui était un peu, avait un type de poison qui faisait gonfler la peau. On prend un roseau, un type de bâton, pour représenter son sceptre. Ensuite, on le prend et on le tape sur la tête avec la couronne. On le moque. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai lu quelque part que c'était quand il était livré et les soldats ont mis robe rouge et couronne et tout ça. Il y avait genre 600 soldats présents. C'est pas une vingtaine ou trentaine, 600. Encore la moquerie, la haine. Il était tout seul. On n'a pas besoin de se poser la question pourquoi il avait tellement d'angoisse dans le jardin la nuit d'avant. Ensuite, on lui donne sa croix à porter jusqu'à Golgotha, la colline du crâne. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas étonnant. Il a déjà perdu énormément de sang. Un homme, Simon, qui vient de Cyrène, est pris pour l'emmener jusqu'au bout. Ils arrivent sur la colline. Ensuite, il est cloué sur le bois. On pense que les clous étaient mis là et là. Et là, au niveau des os, pour pouvoir supporter le poids d'un corps. Ensuite, après cette douleur, il y a un trou. Il faut mettre la croix dedans pour le mettre debout. Enlève, enlève, enlève. Quelle souffrance. La moquerie continue, les soldats, les religieux autour, n'importe qui passait. Se moquer de lui. Si tu es le roi, si tu peux détruire le temple et le relever dans 3 jours, descends de là. Tu es Dieu. Vas-y. La moquerie, ça continue. Bien sûr, à cause de tout qu'il a passé, on a la chair bien vive. Pour respirer, il faut se monter pour prendre un souffle. Donc, quand c'est l'heure qu'il parte, il se lève encore une fois pour prendre un souffle, pour dire, entre autres, tout est accompli. On a le sang de l'agneau sur le bois à nouveau pour payer le prix pour nous sauver. Mais ce n'est pas la fin. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas, ce n'est pas d'être sensationnel. Est-ce qu'on peut se souvenir? C'était un prix cher. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ensuite, c'était la fête justement de Pessa. On descend Jésus de la croix pour le mettre dans le tombeau avant que le soleil se couche. Parce qu'après, les Juifs, on ne peut plus faire. On le met dans un drap de lin. On le met dans un nouveau tombeau. On met la pierre dessous. Pour les disciples et les femmes qui étaient là, c'était vraiment la fin. Ils ne comprenaient rien. C'était le roi, le sauveur. Ça finit comme ça? Non, ça finit pas comme ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça dit, Jésus lui-même a dit que comme un signe de Jonas qui était dans le poisson, 3 jours et 3 nuits, il serait dans le tombeau 3 jours, 3 nuits. Et puis. Alors, on sait qu'au moment de sa mort, il y avait le rideau dans le temple qui est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il y avait un tremblement de terre. À ce moment-là, les soldats se rendent compte qu'il était le Fils de Dieu. Il y avait quelques morts qui étaient ressuscités à ce moment-là. Et quand Jésus a été ressuscité, on les a vus à Jérusalem. Ils sont entrés dans la ville. Les prémices, même avant Jésus. Et puis, 3 jours après, il est ressuscité. Et c'était fait. Tout était accompli. Il est passé par tout ça, toute cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux sur la gloire à venir. Il a compris que le prix valait la gloire à venir, les résultats. Pouvoir sauver tout le monde. Le monde de toute l'histoire. Jésus, il a tout fait. Donc, le dimanche matin arrive, les femmes vont au tombeau, et puis un ange, il est comme un éclair, il est là, il ouvre le tombeau. Bien sûr, tout le monde a peur, les soldats tombent comme ils sont morts, et les femmes, bien sûr, elles ont peur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez quelqu'un qui est mort. Mais il n'est pas là parce qu'il n'est pas mort. Il est ressuscité. Dites aux frères qui va les rencontrer à Galilée. Wow, quelle nouvelle! Et en allant pour voir les frères, les disciples, Jésus lui-même, il est devant les femmes et elle tombe à ses pieds pour le louer. Il est là, notre Jésus. Il est là. Il n'est pas qu'un Seigneur pour eux, pour elles. Il est vraiment quelqu'un. Elles ont suivi depuis longtemps. C'est notre Jésus. Il est vivant. Il est là. Et on le loue. Et puis, bien sûr, plus tard, Jésus, il a vu ses disciples. On avait ce moment où tu parlais justement à Galilée. Il y avait du monde qu'il a vu avant qu'il ascende au ciel. Et ça, c'est notre foi, parce que la fin de l'histoire, ce n'est pas ce qui est moche, ce qui est brutal. La fin de l'histoire, c'est la gloire et la vie et la résurrection. Et ça, c'est notre promesse. C'est ça. Donc, si on se souvient de ce qui est difficile, combien c'était brutal, horrible. C'est pas pour rester là. Je suis pas trop fan des croix avec Jésus dessus. Il n'est plus là. Il n'est pas resté cloué sur le bois. C'est pas le mot final. Il est passé par là, mais il n'est plus là. Il n'est même pas dans le tombeau. Il n'est plus là. Il est ressuscité et même il est ascendu au ciel à côté, à la droite de son Père. Ça, c'est notre Jésus. Et grâce à tout qu'il a fait pour nous, nous avons cette espérance de résurrection aussi. Nous avons cette espérance. Et c'est ça qu'on veut partager chez Fika, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut partager, cette vie, cette espérance. Comme j'ai dit tout au début de ce message, il m'a transformé. C'est pas que ça non plus. J'ai la vie éternelle et je me réjouis pour la vie éternelle, mais j'ai quelques années sur cette terre quand même. Et je veux vivre la vie avec Jésus sur cette terre. Je veux être transformé, je veux être comme lui. Le mot chrétien est venu plus tard, qui signifie petit Christ. Pourquoi? Parce qu'il allait partout, il faisait les mêmes choses que Jésus faisait. Il priait, les malades étaient guéris, les personnes délivraient des démons. On a vu les transformations des vies partout où les petits Christ sont allés. Et ça, c'est notre mandat à nous. C'est d'être les petits Christ, de porter cette vie, de porter cette vérité, de porter cet amour. Ça, c'est notre mandat aujourd'hui. Et notre destinée et notre identité en tant que fils et fille de Dieu, parce que c'est ça que Jésus il a fait. Il a payé ce prix terrible pour nous réconcilier avec le Père. Ça, c'était le but dès le début. Après la chute, on était séparés. On faisait tout pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu, il a tout fait pour avoir une relation avec nous. Il a donné son Fils unique. Il nous a donné l'espérance d'avoir cette relation restaurée, d'être réconcilié, d'être pardonné, d'être purifié pour pouvoir entrer dans sa présence. Il n'a pas une ambition plus haute que de partager la vie avec nous. Donc ça, c'est notre espérance aujourd'hui, les amis. Et en Apocalypse 1, verset 17-18, quand je le vis, je tombais, c'est Jean qui a une vision de Jésus. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, Jésus dit, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Voilà, vous êtes vivant à nouveau. Ouh. Vous m'avez fait peur. Oui, ça c'est Jésus dans son état actuel. Il a pris ses clés. Il est maître. Il est maître de la vie et la mort. Il est maître, il est seigneur, il est roi. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est même pas la fin de l'histoire, mais de cette histoire un peu. Ça continue. Ça va continuer jusqu'à l'éternité. Et on a le privilège de le connaître. Alors, quand il a dit tout est accompli sur la croix, le mot en grec est tetelestai. Désolée pour ma prononciation. Le verbe teleo, qui signifie d'emmener à sa fin, compléter, accomplir. Donc, il disait vraiment que tout, dans cette histoire de la Bible, les sacrifices, tout que Dieu a planifié, était accompli là. Aussi, ce verbe est dans le parfait, qui veut dire que ça se passait déjà, ça se passe dans le présent, et ça va continuer d'être la vérité. Donc, c'était accompli, ça va être accompli. C'était accompli, c'est accompli, ça va être accompli. Tout qu'il a fait à la croix. Voilà. Donc, on va prendre la Sainte Cène en se souvenant justement de Jésus, ce dernier repas avec ses disciples. Alors, c'était un repas qui on fêtait depuis des centaines d'années. Et là, il a établi un nouveau repas. Il a dit, « Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, ça c'est toujours bien, n'est-ce pas, la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellé l'alliance. Il va être versé pour beaucoup, beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Donc, quand on prend la Sainte Cène, on a même, les amis, on a pris du pain sans levain, bien le pain de Pessa, d'accord? Parce que c'est ça qu'ils mangeaient pour se souvenir de la délivrance de l'Égypte. Et le vin, oh, je vais garder ça comme j'ai touché. Ceci, mon corps, on vient de se souvenir de ce que son corps a payé. Et voici mon sang, ce qui est trop beau, qui est scellé, par lequel est scellée l'alliance. C'est le sang qui scelle notre alliance. Dieu a fait l'alliance avec nous. C'est lui qui a fait le premier pas. Toujours. N'est-ce pas? Vous êtes allé déjà à Rome, the Sistine Chapel? Chapelle Sistine. Vous avez vu l'œuvre de l'art et il y a l'homme et Dieu qui essaie de se toucher. Est-ce que vous avez remarqué l'homme, il est comme ça. Si tu peux m'atteindre, c'est bien. Et Dieu, il est là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça, c'est un peu notre histoire en tant qu'humanité, n'est-ce pas? Oh oui, j'aime Dieu. Je suis là. Et Dieu qui fait tout pour nous atteindre. Et c'est ça cette histoire, c'est ça cette alliance. Donc aujourd'hui, on va prendre tous ensemble ce pain et ce vin. On va remercier Jésus pour son prix ultime. Et on va se réjouir parce qu'en passant par là, avec cette alliance, on a pas que la vie éternelle, ce qui est déjà pas mal, mais on a cette délivrance, cette guérison, cette transformation, cette bonté. Et on a cette vie. Alors, bien sûr, le mandat que Jésus a laissé à ses disciples, elle est partout dans le monde et fait les disciples, toutes nations. On ne veut pas garder ça pour nous. On veut partager cette espérance, cette vérité qu'on a. Partout où on va, on veut être le sel et la lumière comme la Bible nous dit d'être. D'accord? Mais on se souvient parce que tout commence par là. Ce n'est pas la fin de l'histoire non plus. Mais tout commence en disant, Jésus, je reconnais, tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour payer pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois en tant que Seigneur. Je te donne ma vie. Ça, c'est le début. C'est un beau début. C'est un beau début. Mais ça commence que une belle aventure. Très belle aventure avec Dieu. Qui va durer jusqu'à l'éternité. Trop beau, n'est-ce pas? Ok, avant de venir, je vais juste vous demander de vous fermer les yeux. Au cas où, si aujourd'hui, soit que tu n'as jamais vraiment compris ce que Jésus a fait pour donner le salut, la vie éternelle, ou même juste avoir une relation avec toi, et pour la première fois, tu veux dire à Jésus vraiment, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu pour me réconcilier avec le Père. Et je te donne ma vie. Si tu veux faire ça pour la première fois, ou peut-être, comme ça nous arrive en tant qu'humaine, tu as oublié quelque part. Tu as oublié. ce que ça signifie quand tu as dit à Jésus, je te donne ma vie. Ok? Donc si ça c'est toi, tu aimerais la prière, est-ce que tu peux juste lever ta main? S'il y a quelqu'un qui aimerait faire un pas de foi vers Jésus. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Ok, Jésus, on te remercie. Et on veut te tout donner. Peut-être encore une fois. Et te remercier.